Bonjour à tous, c'est Yessim qui vous parle. Bienvenue à ce webinaire de l'Atlarge en ce 3 juin 2016. Le sujet, c'est donc la délégation et la redélégation des CCTLD avant et après la transition IANA. Il est donc 13h UTC. Nous n'allons pas faire d'appel parce qu'il s'agit d'un webinaire, mais je demande à tous les participants de ne pas oublier, que vous soyez au téléphone ou sur Adobe, d'éteindre votre micro et, si vous prenez la parole, de donner votre nom pour la transcription ainsi que pour permettre aux interprètes sur les autres lignes linguistiques de vous identifier. Nous avons donc une interprétation en anglais, en espagnol et en français. Merci pour votre attention. Je passe maintenant la parole à notre modérateur, Tijani Benjema. C'est à vous, Tijani. Allez-y. Tijani au micro. Merci, Yessim. Bonjour à tous. Nous sommes maintenant présents pour un webinaire sur le renforcement des capacités d'Atlarge. Et nous allons maintenant parler de la délégation et de la redélégation des CCTLD avant et après la transition. Notre intervenant aujourd'hui est Bart Postwinkel, qui est conseiller en politique senior à l'ICANN et il travaille pour aider la CCMSO. Donc avant de lui passer la parole, je vais redonner la parole à Yessim qui va parler de quelques détails logistiques. Yessim au micro, merci Tijani. Nous allons donc parler de quelques points de logistique. Si vous avez des questions pendant le webinaire, nous vous encourageons à les taper dans la partie questions-réponses. Nous avons également une partie questionnaire, quiz, avec 3 questions qui seront posées à la fin de la présentation. Donc soyez prêts à répondre aux questions. Ensuite, nous aurons une partie expérience de l'utilisateur avec un petit sondage à la fin du webinaire. Donc encore une fois, nous vous demandons de rester présents à la fin pour répondre à ces questions. Et nous allons maintenant vous expliquer comment fonctionne le webinaire. Donc vous avez la partie questions-réponses, vous avez donc en bas à gauche, vous avez également l'évaluation et le questionnaire donc au milieu à droite, sur la colonne de droite. Voilà, merci beaucoup. Je repasse la parole à Tijani. Tijani au micro, merci Yessim. Je vais maintenant passer la parole à Bart qui va commencer sa présentation. Allez-y Bart, vous avez la parole. Bart au micro, merci Tijani. Alors nous allons attendre que la présentation soit affichée. Comme Tijani l'a mentionné, vous me connaissez peut-être en personne, mais je suis donc conseiller en politique à la CCNSO et je prends la place en fait de Katrina qui est présidente de la CCNSO et qui n'a pas pu fournir ce webinaire, présenter ce webinaire, puisqu'elle avait d'autres engagements. Alors, quelques remarques préliminaires avant de passer à la présentation en elle-même. J'imagine que pour certains d'entre vous, vous ne savez pas également quelles sont les questions relatives à la délégation et à la redélégation des CCTLD. Ce sujet est complexe, il présente différents volets. Il y a des aspects de fonction de l'IANA, il y a d'autres aspects.
Donc il y a des problèmes de législation, il y a des questions, C'est pas un âge officiel,
en fait. Sont uniquement techniques et je ne peux vous fournir qu'un un aperçu très global. Mais pour ceux qui vous intéressez vraiment à ce sujet, à la fin de la présentation, il y aura une liste de documents plus détaillés que vous pourrez consulter. Alors, nous allons donc commencer alors, par rapport à la liste des sujets dont je voulais parler, je voulais vous mentionner un petit peu le contexte, l'introduction de la délégation. Nous allons parler des bases, nous allons parler de délégation de la gestion des CCTL. Alors, je ne vais pas utiliser le terme de redélégation, il est considéré comme obsolète. Je vais donc vous parler des bases, des concepts de base, qui permettront de comprendre les questions relatives à la délégation des CCTLD, à la révocation et au transfert. Et je pense qu'il faut réellement bien comprendre ce qui se passe avant la transition et ce qui passera après la transition. Il faut bien comprendre quel est l'impact de la transition. Et ensuite, je parlerai de la délégation de la gestion des CCTLD, je parlerai de la révocation et des transferts, un petit peu du retrait des CCTLD, et enfin donc de l'impact de la transition, comme je le disais tout à l'heure. Alors, un contexte et une introduction pour comprendre l'importance du sujet en lui-même. Donc tout d'abord, la délégation, la révocation et le transfert et le rôle de l'ICANN. Alors, il faut bien savoir que les premiers CCTLD ont été délégués dans le milieu des années 80. Alors, ça dépend comment on voit les choses, mais je crois que c'était 84, voire 85, suivant ce que l'on prend en considération. Et pour la plupart des CCTLD, ils ont été délégués avant, en fait, que l'ICANN existe, en 1998. Donc, dans ce sens, la relation entre les gestionnaires de CCTLD et l'IANA est antérieure à la création ou à l'existence de l'ICANN. Et c'est en fait un des problèmes principaux en ce qui concerne la relation entre l'ICANN et les CCTLD. Comme je le disais, je parlerai de la délégation, de la révocation, du transfert et du retrait et des différents processus qui y sont liés. Alors la redélégation, eh bien, la redélégation de la gestion d'un CCTLD, c'est donc un terme qui est obsolète en 2014, qui devient obsolète en 2014. Et je vous expliquerai pourquoi, puisque nous l'avons donc remplacé par le transfert, donc la redélégation consentie et la révocation, qui est en fait une redélégation non consentie, selon le langage ancien. Donc, en termes de révocation, de transfert et de gestion des CCTLD, eh bien, cela correspond aux différents modes de redélégation. Alors, autre chose qu'il ne faut pas oublier dans cette présentation, c'est que la CCNSO est responsable de la mise en place de politiques. Elle n'a pas de rôle d'exécution des politiques. Elle n'a pas non plus de rôle relatif aux questions individuelles concernant la relation entre les gestionnaires de CCTLD et l'opérateur des fonctions IANA. Donc le rôle de la CCNSO est très limité. Enfin, pour ce qui est de l'opérateur des fonctions IANA, il est responsable de l'exécution des politiques. Donc actuellement, l'opérateur des fonctions IANA, c'est donc l'ICANN, sur la base du contrat des fonctions IANA. Et donc après la transition, ce sera donc le PTI. Et j'imagine que tout ceci vous permettra à être prêt par rapport aux différentes prépositions, mais l'hypothèse de base, c'est que le contrat est lié à la CAN, pour l'instant en tout cas. Alors voilà donc pour ce qui est des bases, un petit peu de la présentation générale du contexte. Cela vous donne un petit peu le cadre dans lequel nous travaillons et dans lequel cette présentation se situe. Alors deuxièmement, et la chose suivante est très importante, la diversité des gestionnaires de CCTLD, de cette communauté. Il existe environ 250 CCTLD actuellement, pour ce qui est des ASCII. Il existe plus de 30 CCTLD IDN. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 198 pays et 50 territoires, plus de 50 territoires. Et je vous mentionnerai dans un instant la question de la délégation des CCTLD et comment tout ceci fonctionne. Alors, pour ce qui est de la communauté CCTLD à l'interne, elle est très diverse. Il existe différents modèles de gouvernance. Certains CCTLD sont gérés par des agences gouvernementales, d'autres par des organisations à but non lucratif, d'autres par des organisations à but lucratif. Certains sont gérés par des autorités universitaires, donc, etc. Il faut bien comprendre que tout ceci est défini au niveau local. Deuxièmement, il y a une certaine diversité en termes de taille et de modèle commercial. Comme je le disais, donc il y a des entités à but non lucratif qui s'en occupent, d'autres qui sont à but lucratif. Si vous regardez la liste des TLD, donc des domaines de premier niveau, le .com, de toute évidence, est le plus important en termes de nombre. Mais le deuxième, c'est le point CH, donc c'est la Chine. Et le troisième, c'est le point DE pour l'Allemagne, qui sont à pratiquement 20 millions de non gérés. Mais donc, en fin de compte, on voit qu'il y a des CCTV qui sont tout petits et qui n'ont pas plus de 500 noms de domaine dont ils s'occupent. Par exemple, les îles Caïmans, c'est un TLD très petit parce que les politiques sont très restreintes, très strictes. Et il y a également la politique d'enregistrement qui varie suivant les CCTLD. Pour certains, ils sont très libéraux, par exemple le point DE, et comme je le disais il y a un instant, le point CA, donc pour les îles Caïmans, a en fait une politique très restrictive. Et ceci veut dire que nous avons une grande diversité. Et il y a d'autres facteurs que l'on peut utiliser également pour mesurer la diversité, mais ce qu'il faut comprendre à la base, c'est qu'il y a une grande diversité. Alors, autre chose qui est très important en ce qui concerne la délégation, le transfert et la révocation des CCTLD, c'est qu'il y a des principes qui s'appliquent à tous les CCTLD et qui sont indépendants du fait que ces CCTLD soit membre ou non de la CCNSO. Et comme vous le savez peut-être, tous les CCTLD ne font pas nécessairement partie de la CCNSO. Actuellement, nous en avons 158 qui sont membres. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il y en a pratiquement 100 qui ne sont pas membres. Et les CCTLD IDN, d'ailleurs, ne peuvent pas en faire partie. Donc, voilà un petit peu pour ce qui concerne donc les bases de ma présentation, les définitions, de manière à bien comprendre l'impact de la transition. Alors, des documents de base, Je vais simplement vous les mentionner, je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous pourrez les lire. Cela vous donne quelques points de référence. Alors maintenant, comme je le disais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est des concepts clés en matière de délégation des CCTLD. Alors, ces concepts de base, ils existent dans la RFC 1591. C'est donc en fait le document principal en matière de définition. Donc, l'IANA ne s'occupe absolument pas de déterminer ce qui fait un pays et ce qui fait que nous n'avons pas un pays. Donc, à l'époque où nous avons mis au point la RFC 1591, les personnes qui ont été impliquées dans l'IANA, eh bien, cherchaient une autorité externe avec laquelle travailler et qui puisse déterminer ce qu'est un CCTLD et ce qui n'est pas un CCTLD. Donc en fait, c'est l'ISO 3166 qui a été utilisé. Donc l'agence qui s'occupe de développer cette liste dynamique, de manière à déterminer si une entité géographique était un pays, un territoire ou pas. Donc, ce que cela veut dire, c'est que si, pour une raison ou pour une autre, une entité géopolitique est intégrée à la liste 3166 de l'ISO, eh bien, on lui donne un code à deux lettres, et ce code à deux lettres est éligible pour la délégation, pour la gestion de ce CCTLD. Alors, autre chose très importante, et qu'il faut bien comprendre avant d'avancer plus loin, c'est que, étant donné que l'IANA fait référence à l'ISO 3166 pour ceci, l'ISO 3166, en fait, est dynamique, puisque les pays, les territoires, ils viennent et ils vont, donc je rentrerai dans les détails plus tard, lorsque je parlerai du retrait des CCTLD, mais pour vous donner un exemple récent, nous avons celui du point NA, des Antilles néerlandaises. Alors, il y a également la question de la gouvernance locale dans le cadre de la RFC 1591. Donc, c'est la loi locale qui prévaut. Et nous avons également les parties qui ont un intérêt particulier. Donc, les parties ayant un intérêt particulier, c'est un concept qui fait référence à ce que l'on appelait par le passé la communauté locale de l'Internet, donc les autorités locales, les gouvernements ou les agences et autres parties qui ont un intérêt direct, un intérêt matériel et un intérêt qui peut être prouvé, dont on peut apporter la preuve dans le fonctionnement des CCTLD. Ceci inclut donc le gestionnaire de CCTLD. Donc il faut bien comprendre ceci dans le contexte de la délégation et surtout dans le contexte de la révocation et du transfert des CCTLD. S'il y a un désaccord au niveau local, celui-ci doit être résolu au niveau local, dans le pays ou dans le territoire. Donc ceci est lié à la RFC 1591. Enfin, l'administration locale des CCTLD, donc c'est en fait la base de la limite des politiques de l'ICANN pour les CCTLD. Les CCTLD sont donc administrés et gérés au niveau local. Donc tout ce qui est loi locale, réglementation locale, s'applique, c'est une question locale. Et le gestionnaire de CCTLD local doit servir et au service de la communauté locale et travailler avec l'IANA pour préserver la sécurité et la stabilité au niveau mondial. Donc il y a vraiment une focalisation au niveau local, à la gouvernance locale. Alors, pour ce qui est des bases, Donc, je vais parler maintenant du contrat des fonctions IANA, donc délégation, révocation et transfert des CTLD inclus dans le service de l'opérateur des fonctions IANA. Il y a des niveaux de service qui sont applicables, le rôle de définition dans les différents processus de délégation et de révocation et de transfert, donc qui est défini. En ce qui concerne les politiques, il y a également des clauses spécifiques dans le contrat de l'IANA en ce qui concerne la délégation, la révocation, le transfert de CCTLD. Il y a donc des politiques qui sont définies, donc la RFC 1591 et autres. Il y a des documents qui sont définis. Exclusion de performance, donc l'opérateur des fonctions IANA n'a pas le droit d'effectuer des changements matériels au cadre de politique. Et il n'y a pas d'accord, de contrat, etc., comme prérequis pour recevoir les services des fonctions IANA. Donc ceci concerne les communautés qui, par exemple, pensent que les fonctions IANA doivent être fournies à tous, à tous les CCTLD. Qu'il y ait un contrat avec la CAN, qu'il y ait un échange ou qu'il n'y ait pas de relations documentées, officielles, avec la CAN ou avec l'IANA. Donc voilà en ce qui concerne les concepts de base pour la délégation, comme je le disais. Alors, maintenant, voyons un petit peu les processus. Donc la délégation de la gestion d'un CCTLD. J'espère que vous pouvez lire ceci. Donc, la délégation, et là on revient au cadre d'interprétation, la délégation, donc sa définition, c'est un processus par lequel l'opérateur des fonctions IANA attribue des responsabilités de gestion pour la gestion d'un CCTLD. Donc voilà un petit peu comment nous définissons la délégation. Et si vous descendez un petit peu, vous pouvez voir le processus actuel. Donc vous avez un prérequis qui est en fait le point d'entrée, donc le code attribué dans ISO 3166, donc le code de lettres. S'il y a un pays qui n'a pas de code à deux lettres qui lui a été attribué, donc une entité géographique, un pays, un territoire, qui n'a pas ce code à deux lettres, ou s'il y a une entité géographique qui n'a pas de point d'entrée dans le cadre de l'ISO 3166, donc dans cette liste, eh bien, il n'est pas éligible comme CCTLD. Ça, c'est un principe de base. Donc, s'il y a un point d'entrée, il y aura délégation, demande de délégation, pardon, par le gestionnaire de CCTLD. Et ceci sera soutenu par des documents pertinents qui incluent donc le soutien des parties ayant un intérêt particulier, donc la communauté, et il y a d'autres documents nécessaires également relatifs, par exemple, aux capacités techniques, etc., du gestionnaire de CCTLD ou de l'opérateur, donc. Cette documentation, enfin la demande est traitée par l'opérateur des fonctions IANA et si tout va bien, donc il y aura vérification par le conseil d'administration et l'autorisation pour la suite. Et là, il y a eu de gros débats dans ce domaine parce que les gouvernements, les CCTLD donc, doivent être autorisés par la NTIA pour qu'il y ait changement à la zone racine. Donc, il y a vérification par le Conseil et autorisation, et ensuite, il y a renvoi à la NTIA pour autorisation, et si la NTIA autorise le changement à la zone racine, c'est uniquement à ce moment-là que le changement aura lieu. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur la base des propositions qui ont été faites par le CCWG sur la supervision, donc suite à la transition, il n'y aura plus de rôle de la NTIA dans le processus d'autorisation. Donc, le lien sera direct. Il y aura vérification par le conseil d'administration et autorisation pour changement à la zone racine. Donc voilà le nouveau processus. Alors donc, dans la communauté des CCTLD, cette élimination de l'autorisation de la NTIA signifie qu'il n'y a plus, en fait, il y a absence de certaines parties, et donc cela veut dire qu'il faut qu'il y ait un mécanisme de révision. Il y a besoin de ce mécanisme de révision. Comme vous le savez, ce mécanisme de révision n'a pas été inclus dans les propositions. Donc cela signifie, c'est que ce mécanisme de révision sera mis au point par la CCNSO par le biais d'un processus de développement de politique. Et également, le sentiment de certaines communautés, et qui donne lieu à beaucoup de débats, c'est de savoir non seulement comment mettre en place, mais également comment comparer les différents services qui sont livrés dans le cadre des statuts. Donc le cadre de travail développé en dehors du PTI, donc il y a des questions de niveau de service, ce qui est une question très importante pour le CCTLD, et pas d'exclusion de performance, comme je le disais, et donc ceci est lié à l'absence de changement en matière de politique, et donc l'absence d'accord, de contrat, pour recevoir les services des fonctions IANA. Alors, en ce qui concerne la révocation, le transfert de la gestion d'un CCTLD, donc le processus actuel, c'est la révocation et la demande de révocation et de transfert pour un nouveau gestionnaire de CCTLD, donc très important avec tous les documents. Donc ceci doit être soutenu par les parties ayant un intérêt particulier, ce qui inclut les gouvernements, les parties prenantes qui ont donc un intérêt direct dans la gestion du CCTLD. Et il y a donc d'autres documents qui sont obligatoires. En ce qui concerne le transfert d'un CCTLD, le gestionnaire actuel du CCTLD doit donc fournir un consentement pour le transfert de la gestion du CCTLD. Donc, encore une fois, ceci doit être documenté, comme vous l'imaginez. Il y a donc traitement par l'opérateur des fonctions IANA, vérification par le conseil, autorisation par la NTIA des changements à la zone racine, et ensuite processus de gestion du changement de la zone racine. Et après la transition, il n'y aura plus de rôle de la NTIA dans l'autorisation des changements. Donc encore une fois, donc besoin de mécanismes de révision. Donc il y a besoin de ceci, et ce mécanisme de révision n'a pas été inclus dans les propositions développé par le CCWG sur la supervision ou par le CCWG sur la responsabilité. Et c'est la communauté des CCTLD qui a posé cette question parce qu'il faut qu'il y ait une politique qui soit définie, qui soit mise en place par la CCNSO. En ce qui concerne la révocation, encore une fois, besoin de clauses comparables sur le service.
Bien. Et finalement, ce qui est très intéressant, étaient les informations que je voulais inclure, qui n'étaient peut-être pas disponibles pour tout le monde, mais c'était les délais des CCTLD. Et le retrait particulièrement d'un CCTLD. Comme vous savez, le ISO 31661 est une liste dynamique. Et il y a des pays qui vont et viennent, il y a des noms qui sont retirés. Mais cela montre la dynamique géopolitique du monde. Donc les différents changements reflètent ces situations. J'ai inclus deux exemples pour montrer la diversité du type de scénario qui pourrait avoir lieu. Le premier exemple est celui du point NA, qui, à partir de la restructuration du Royaume des Pays-Bas en 2010, a été retiré. Il est passé d'un CCTLD attribué à un CCTLD réservé pour la période de transition. Le CCTLD lui-même a été retiré, mais en même temps, deux ou trois autres codes ont été inscrits dans le ISO 3166. Donc vous voyez qu'il y a différentes dynamiques qui sont appliquées dans ces changements. Mon deuxième exemple, qui est fort intéressant, est celui des modifications qui ont été apportées au point CS. Ce CCTLD correspondait à la Tchécoslovaquie au début et puis à la Serbie et au Monténégro. Donc vous voyez que l'agence de maintenance de l'ISO 3106 pourrait faire des modifications et attribuer un CCTLD à un pays d'abord, mais par la suite attribuer ce même code de CCTLD à un autre pays, ce qui a provoqué des problèmes non seulement pour un pays, mais surtout pour les DNS, dans le domaine des DNS. Je sais que il y a eu des problèmes dans les bibliothèques, par exemple, par rapport à ce changement de code de l'ISO 3166, ce qui montre que la liste ISO 3166 n'est pas uniquement utilisée par l'ICANN, mais que ces codes ont d'autres utilisations aussi pour les bibliothèques, pour l'union postale, par exemple, ou pour les systèmes de devises. Donc il est important de comprendre les implications de cette liste. Dans ce cas, on a eu le point CS qui était attribué et utilisé formellement, puis il a été réassigné à la Serbie et le Monténégro, et puis par la suite, il a été réservé de manière transitionnelle après la désintégration de la Tchécoslovaquie et de la Serbie et du Monténégro. À l'heure actuelle, ce code de pays correspond à la Serbie et le point CS pour la Serbie et le Monténégro a été retiré. Je présente cet exemple parce que cela montre qu'il n'y a pas une politique en place en ce moment et que la situation évolue constamment. Les documents des rapports de l'IANA enregistrent toutes ces informations et le rapport final de la délégation et de la redélégation de la CCNSO qui a été élaboré par le groupe de travail correspondant prend note de cela. Les modifications à la zone racine sont autorisées, mais elles ne sont pas très bien enregistrées. Donc ce domaine devra faire l'objet d'une politique de la CCNSO qui l'élaborera sans doute et on verra cela par la suite. Or, en ce concernant l'impact et la question qui porte sur le titre du séminaire web, on se demande quel est l'impact de la transition sur la délégation, la révocation, le transfert et le retrait des CCTLD. De par ce que je vois à travers une perspective assez limitée, il y a certains aspects qui sont pertinents. D'une part, on a la mise en œuvre du cadre d'interprétation, qui est un document qui, comme vous verrez, a été élaboré par la CCNSO, mais qui n'est pas une politique en lui-même. Il s'agit d'une précision de du RFC 1951, qui est le document de politique. Les règles d'élaboration de politique étaient comprises dans ce cadre, mais le document n'était pas censé créer de nouvelles politiques, mais plutôt de fournir davantage d'informations sur la politique existante, qui est la politique 1951. Donc le document doit être mis en œuvre, ce cadre d'interprétation, avec la rédaction de la présentation aussi. D'autre part, il y en a parmi la communauté des CCTLD qui considèrent ou qui sentent le besoin d'autres politiques supplémentaires. Donc, le PDP sera lancé avant la réunion de Helsinki pour discuter des questions concernant la délégation, la révocation, le transfert et le retrait de CCTLD, d'une part, donc pour réviser ce mécanisme, et la deuxième partie sera l'élaboration d'une politique pour le retrait des CCTLD. L'urgence et la priorité de cela étaient déclenchées par la transition Yana et par les discussions qui portaient sur la transition elle-même. Il me semble qu'il y a également un besoin de clarté au sein de la communauté des CCTLD en ce concernant la PTI, c'est-à-dire l'IANA de la pré-transition, et sa performance, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait davantage de clarté sur la période de la pré-transition et sur les différentes politiques qui sont utilisées, vu que cela a été demandé par la NTIA, par la communauté des CCTLD pour la pré-transition, qui sent vraiment le besoin d'avoir ce type de niveau de service et de faire le suivi des modifications pour pouvoir vérifier qu'il y ait des sauvegardes dans les contrats. Donc voilà ce que je viens de dire, de comprendre des sauvegardes et des exclusions pour la performance aussi. Nous voilà donc à la fin de la présentation. Vous avez sur l'écran les références. Si vous êtes intéressé à vous concentrer davantage sur certaines des questions ou certains des sujets qui ont été présentés aujourd'hui, Tijani, vous avez la parole. Merci. Tijani prend la parole. Merci Bart. Merci de nous avoir fait cette présentation. Je voudrais commencer par vous poser une question, si ça ne vous gêne pas. Oui, bien sûr, dit Bart. Tijani au micro. Ce que vous parlez redélégation ou ce que vous appelez transfert était censé réglementer la responsabilité des CCTLD lorsqu'un CCTLD change d'opérateur. Mais est-ce qu'on a des codes, différents codes pour le même pays? Attendez. Vous parlez de changer un CCTLD d'un pays à un autre. C'est ce que vous avez expliqué. Le cas du CCTLD de la Tchécoslovaquie qui avait été par la suite attribué à la Serbie et le Monténégro. Bart prend la parole. Oui, permettez-moi d'expliquer. J'ai inclus cet exemple parce que je parlais du cas des retraits, surtout dans le contexte de ce qui était inclus dans la liste ISO 3166. Je reviendrai à l'introduction avec les concepts de base, et c'est le fait que l'IANA, cela n'appartient pas à l'IANA de décider quels sont les codes de chaque pays. Cela appartient à l'ISO 3166. Donc l'IANA, la PTI, les gouvernements et les CCTLD seront attribués suivant la liste élaborée par l'agence de maintenance de l'ISO 3166 en conformité avec les normes ISO 3166 qui ont un mécanisme pour déterminer ce qui est un pays et ce qui ne l'est pas. Si Janie prend la parole, d'accord, très bien. Donc la modification était apportée au niveau de la liste ISO. C'est ça, oui, dit Bart. Et Tijani, Je vous remercie de m'avoir posé cette question. Ça me montre pourquoi il était fondamental d'inclure ce concept. Il est très important de comprendre que les CCTLD, en tant que code de pays, n'ont rien à voir avec qui les attribue et avec l'ICANN. Ils servent différents buts. En dehors du système des noms de domaine, ces mêmes codes sont utilisés pour les devises, comme je l'ai dit. Et c'est pourquoi il est intéressant et important de comprendre que la liste ISO 31506 est dynamique, qu'elle change dans la durée. Si j'ai mis au micro, oui. Et le principal exemple de cela est le point EU, qui n'est pas un simple pays, et qui fait partie de la liste ISO. C'est pourquoi cela est devenu un CCTLD. C'est correct, Bart. Si j'ai mis au micro, merci Bart, cette présentation était très intéressante. Je vais maintenant donner la possibilité aux participants de poser des questions. Je vais donner la parole à Yassim, qui présentera Bart au micro. Ah, Sébastien lève la main par contre, hein. Je pense qu'il a une question. Si Jeanne prend la parole. Oui, pardon, je ne l'avais pas vu. Nous allons faire le questionnaire d'abord, et par la suite, nous allons faire les questions. Donc Yassim, allez-y. Yassim Nazar au micro. Merci, Tijani. Nous avons des questions à vous poser. La première question est, est-ce que le cadre d'interprétation est-il une politique en tant que politique élaborée par la CCNSO? Oui ou pas? Veuillez voter, s'il vous plaît. Bart prend la parole. Oui, la réponse correcte est non. Comme j'ai dit, cela ne suit pas le processus d'élaboration de politique de la CCNSO comme telle, donc c'est ça la réponse formelle. Mais une deuxième réponse est le fait que j'ai présenté dans ma présentation, bien que ce n'est pas compris dans cette diapo, c'est le fait que le cadre d'interprétation, et c'est pourquoi cela est appelé cadre d'interprétation, est censé fournir davantage d'informations concernant le RFC 1591, qui est le document qui enregistre les politiques concernant la délégation, la révocation, le transfert et le retrait de CCTLD. Donc la réponse correcte était non. Yassim au micro, merci Bart. Passons maintenant à la deuxième question. Qui attribue un code de pays à un pays ou un territoire? L'ONU, l'ICANN, le mécanisme de la liste ISO 31506 ou le pays lui-même? Veuillez voter s'il vous plaît. Bart, pourriez-vous nous dire quelle est la réponse correcte? Bart au micro. Oui, la réponse correcte était la réponse C. Cela est lié à la question que Tijani vient de poser et à ma réponse. Ce qui constitue un pays et ce qui ne l'est pas est une décision géopolitique. Mais l'agence de maintenance de l'ISO 31506 a un processus pour définir cela. Une fois qu'un pays a été identifié comme tel, il sera inclus dans la liste. Et donc, l'agence de maintenance de l'ISO 31506 attribuera un code de pays à ce pays ou territoire. Ce code sera par la suite utilisé en tant que CCTLD. Donc, la réponse correcte était la réponse C. Yassim au micro. Merci, Bart. Passons maintenant à la dernière question. Question numéro 3. La délégation, la révocation et le transfert d'un CCTLD n'est pertinent qu'aux membres de la CCNSO. Oui ou non? Veuillez voter, s'il vous plaît. Et la réponse correcte? Bart au micro était la réponse B. Je pense que la meilleure manière d'expliquer cela est de comprendre la délégation d'un CCTLD. Lorsque vous voyez le processus de délégation, vous voyez l'attribution d'un CCTLD à un opérateur qui pourrait ou pas être un membre de la CCNSO. Donc, d'abord, pour devenir membre de la CCNSO, il faut être un opérateur de CCTLD, ce qui ne peut se faire qu'une fois que la délégation a eu lieu. Donc la réponse correcte est non. ISM au micro, merci Bart, nous voilà à la fin du questionnaire. Allez-y Tijani. Tijani au micro, merci ISM. Nous allons maintenant passer à la séance questions et réponses. La première question sera posée par Sébastien Bachelet. Allez-y Sébastien. Sébastien Bachelet au micro. Merci Tijani et merci Bart. Je voulais revenir sur l'une des demandes concernant le transfert de CCTLD. On parle de partie prenante ayant un intérêt particulier. Je ne savais pas qu'on définissait cela comme ça. Mais ce que je voudrais savoir est quel est le rôle des utilisateurs finaux dans cette institution et comment les parties peuvent trouver un équilibre pour que toutes les parties prenantes puissent exprimer leur avis. Bart prend la parole. Sébastien, c'est une question complexe. Et la réponse n'est pas simple. Ce que j'ai inclus dans ma présentation était la définition d'un opérateur de fonction IANA, de l'ICANN, de la CCNSO, de CCTLD, comme étant des parties prenantes ayant un intérêt particulier. Cela est parce que si vous voyez le RFC 1591, qui est le document de politique correspondant, on parle de loi locale et de parties prenantes ayant un intérêt particulier. Donc, afin d'apporter davantage de clarté, il est important de commencer à utiliser ce terme comme cela, tel qu'il est défini. Dans la pratique, la manière dont cela sera fait au niveau local va dépendre de ce qui est fait. Comme je l'ai dit, tout dépend d'un concept clé. C'est le fait que les gouvernements et la gouvernance des CCTLD va dépendre de chacune de ces règles. Dans la pratique, au niveau local, la CCNSO, ni moi, ni personne au niveau global, ne peuvent décider. C'est-à-dire que si les utilisateurs finaux veulent s'impliquer sur les questions locales, il faut qu'ils s'impliquent sur les processus locaux également. J'espère avoir répondu à votre question. Je sais que ce n'est pas la réponse à laquelle vous vous attendiez. Tijani au micro. Sébastien, vous levez toujours la main. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Sébastien au micro, oui. Ce n'est pas que je m'attendais à quelque chose d'autre, Bart, en tant que réponse à cette question. Je sais que vous parlez du point de vue de l'ICANN, mais je voulais soulever la question avec mes collègues. Bart au micro, pardon, ce n'est pas l'avis de l'ICANN, c'est l'avis de la CCTLD, des CCTLD et de la communauté des CCTLD. Je ne représente pas l'ICANN, je remplace Katrina, c'est tout. D'accord. Mais c'est également le point de vue de l'ICANN lorsqu'il doit assumer un avis sur la délégation de CCTLD et sur leur redélégation. Je comprends ce que vous voulez dire, mais je voulais soulever la question parce que il me semble que mes collègues d'Adlarge et des ALS savons très bien que si nous ne participons pas au niveau local concernant ces questions, on aura beaucoup de travail à faire et on ne pourra pas participer par la suite. Donc les parties prenantes ayant un intérêt particulier au bout de compte, ne sont que les gouvernements et il faut que l'on soit fort dans ce sens. Donc, merci. Bien sûr que non, dit Bart, mais c'est bien de soulever cette question. Il s'agit d'une question locale et je comprends bien ce point de vue. Et je dirais encore une fois, comme j'ai dit dans la présentation, au début de la présentation, et le fait que la communauté des CCTLD est très diverse, les structures gouvernementales varient de CCTLD qui acceptent beaucoup de contributions et ceux qui sont gérés par les gouvernements. Donc dans ce sens, oui, c'est ce que je voulais dire. C'est Jenny au micro. Merci Bart et merci Sébastien. Alberto Soto lève la main. Mais avant de lui donner la parole, permettez-moi de dire que je connais des cas qui pourraient vous intéresser en ce concernant la redélégation, Sébastien. On avait demandé à ces personnes d'obtenir le soutien de la société civile, du secteur privé et du gouvernement. Donc je pense qu'il y a une certaine nuance ici. Bart au micro. Tijani, je pense que cela confirme ce que je tenais à dire. Si vous voudriez reprendre la présentation, vous pourrez revenir sur la diapo sur le transfert, la révocation et la délégation. Et vous verrez qu'il y a toujours un rôle important pour les parties prenantes ayant un intérêt particulier, ce qui comprend par définition le gouvernement local, mais également d'autres parties prenantes. Si Annie prend la parole, oui, je confirme ce que je voulais dire et que ce n'est pas exclusivement une question locale que de traiter avec le transfert, ce n'est pas une question exclusive aux parties prenantes et aux gérants. Merci. Je vais maintenant donner la parole à Alberto Soto. Alberto Soto au micro. Merci, Tijani. J'ai trois questions à soulever. Les CCTLD non enregistrés, comment est-ce qu'ils sont coordonnés avec l'ICANN? Les CCTLD d'IDN, je sais que ne peuvent pas être enregistrés auprès de la CCNSO. Est-ce correct? Et puis d'autre part, j'ai une autre question. Et c'est le fait que je sais qu'il y a d'autres CCTLD qui n'ont pas été attribués et qui sont très complexes, comme par exemple le cas des îles Malouines, qui est un ensemble d'îles qui appartiennent à l'Argentine pour l'ICANN en tant que CCTLD indépendant. Qu'est-ce que cela va impliquer? Merci de cette question. Alberto, dit Bart, est-ce que vous voulez m'expliquer ce que vous voulez dire par CCTLD non enregistré? Alberto au micro. Oui, Alberto Soto ici. Il me semble que dans l'une de vos premières diapos, qu'il y avait des pays qui n'étaient pas enregistrés dans la CCNSO, c'est ça que je veux dire. Oui. Barre ton micro, c'est correct. En principe, en ce concernant les fonctions YANA, ou en ce concernant l'opérateur des fonctions YANA, ils sont tous traités de la même manière. On ne fait pas de distinction. Tout dépend de l'opérateur des fonctions YANA et c'est lui qui peut apporter des modifications. Ce n'est pas exclusivement la délégation, le transfert, etc. Mais les changements au serveur de nom correspondent également à l'opérateur de fonctions YANA. Donc en principe, il n'y a pas de distinction là-dessus. Est-ce que nous avons bien répondu à la première question? Alberto Soto au micro, oui, la réponse est correcte. Merci. Bart au micro, oui. Attendez, j'ai oublié quelle était la deuxième question, donc je vais répondre à la troisième question concernant le point SK et les îles Malouines. Comme je l'ai dit, et cela revient, je pense, à un malentendu sur le rôle de l'ICANN. Si l'ICANN n'a pas enregistré le point FK, cela est dû au travail de l'agence de maintien de l'ISO 31166, et les îles Malouines ne sont pas incluses dans cette liste. Si elles ne le sont pas, on n'a pas d'éligibilité pour la délégation. Et cette question correspond à la géopolitique. Ce qui ressort de la responsabilité des personnes qui ont élaboré l'ISO 31166, qui ont décidé de ne pas s'impliquer dans ces questions géopolitiques. Donc pour revenir sur ce point-là, s'il est correct de déléguer ou pas le point FK, cela n'a rien à voir avec l'ICANN. Cela correspond à l'agence de maintien de la liste ISO 31166 qui l'a inclus et qui décide d'inclure ou pas ce CTLD dans la liste de pays, ce code dans la liste de pays. Et quelle était votre deuxième question? Alberto Soto prend la parole. Oui, merci Bart. J'aime bien votre réponse, je l'apprécie. Il me semble avoir compris que les CCTLD d'IDEN ne peuvent pas appartenir à la CCNSO. Est-ce correct? Bart prend la parole. Oui, malheureusement, c'est correct. Du point de vue de la politique pour la sélection de CCTLD qui est adoptée par le conseil d'administration, jusqu'à ce moment-là, il y aura des exclusions par rapport à qui peut appartenir à la CCNSO et concernant les articles des statuts constitutifs actuels. Je pense que c'est l'article 9 qui parle des CCTLD d'IDN qui ne comprennent pas cette définition, malheureusement. Donc, c'est une question de temps, bien sûr, mais en principe, les CCTLD d'ASCII sont les seuls qui peuvent appartenir à la CCLSO. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Alberto Soto, micro. Oui, vous avez répondu à ma question. Merci. Tijani prend la parole. Merci Alberto et merci Bart. Nous avons maintenant une question du chat. Yashim, pourriez-vous nous lire la question? Yashim Nazlar au micro, bien sûr, merci Tijani, c'est Yashim ici. La question est de Jason Hinz qui demande « Comment est-ce que l'ICANN, l'IANA et la CCLSO communiquent avec les opérateurs de CCTLD pour les mettre à jour sur cette question après la transition IANA? Y a-t-il un moyen de communication obligatoire avec les opérateurs qui n'appartiennent pas de manière volontaire à la CCLSO ?» Et puis, on a aussi un commentaire de Jason Hinz qui dit « Je suis inquiet de la manière dont les CCTLD s'informent des événements liés à leurs fonctions. Et ce qui m'inquiète est le fait que les gérants locaux pourraient varier trop par rapport à ce qui est utile en tant que meilleure pratique et événements à jour. Merci. » Bart prend la parole. Merci de nous poser cette question, Jason. Il y a certains aspects d'intérêt liés à votre question. Je n'aurai pas le temps de tout vous dire, mais d'une part, concernant la transition, la supervision et la responsabilité, surtout en ce qui concerne les événements et les discussions liées, il existe une liste qui comprend tous les gérants de CCTLD, qui sont tous informés par ce moyen, même s'ils n'appartiennent pas à la CCNSO. D'une part, cela. Et puis, cela est lié à à une publication active de documents. Et il existe également d'autres documents, non seulement de la CCNSO, mais également par les organisations régionales de CCTLD et par l'opérateur de fonction IANA. La CCNSO peut bien sûr être amenée jusqu'à la rivière, mais elle ne peut pas être obligée à se désaltérer, c'est-à-dire que elle doit essayer de desservir la communauté, comme je l'ai indiqué dans les diapos concernant la stabilité et la sécurité, et ils doivent être en communication avec l'opérateur de fonction IANA. Mais, outre cela, en dehors des CCTLD eux-mêmes, les opérateurs de CCTLD eux-mêmes doivent à un moment donné communiquer avec la CCNSO et comprendre les événements ayant lieu. Donc, la gestion de CCTLD qui est déléguée est censée desservir la communauté. Et à mon avis, en tout cas, cela implique également que la communauté devrait être informée des événements. Et je devrais, je pense à ce point-là, revenir à votre deuxième commentaire. Et c'est le fait qu'on a une liste de pratiques, de meilleures pratiques que la CCNSO publie, mais que cette liste est partagée avec les organisations régionales, non seulement avec les membres de la CCNSO, au moins je sais que c'est le cas pour l'ACTLD, pour la région africaine, AFTLD, la région Asie-Pacifique, qui est APTLD, et pour la région européenne, il y a beaucoup d'informations qui sont fournies, beaucoup d'informations qui sont échangées, comme des meilleures pratiques, qui comprennent certains CCTLD qui ne font pas partie de la CCNSO. Il y a beaucoup d'informations qui sont échangées, qui sont mises en commun dans ce sens. Mais, encore une fois, comme je disais, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à faire ce que vous voulez. J'espère avoir répondu. Tijani au micro. Merci, Bart. Nous sommes en retard. Donc, voyons d'abord quelles sont les questions d'évaluation et par la suite, nous allons voir si nous avons d'autres questions. Yes, je me prends la parole. Merci, Tijani. Nous avons des questions. Donc, nous allons les voir rapidement. Première question. Comment trouvez-vous l'horaire du séminaire web? Est-il trop tôt, correct ou trop tard?
Merci beaucoup pour vos réponses. Deuxième question. Dans quelle région est-ce que vous vivez actuellement? Donc, Afrique, Asie, Australasie, îles du Pacifique, Europe, Amérique latine et îles des Caraïbes, et donc la dernière région, Amérique du Nord. Merci beaucoup pour cette réponse. Maintenant, troisième question, combien d'années d'expérience est-ce que vous avez dans la communauté de l'ICANN? Moins d'un an, 1 à 2 ans, 3 à 5 ans, 5 à 10 ans, ou alors plus de 10 ans. Allez-y. Passons maintenant à la quatrième question. Que pensez-vous de la technologie utilisée pour le webinaire ? Audio, vidéo ou téléphone. Alors, vous allez noter de 5 à 1, 5 excellent et 1 très mauvais.
Merci, merci beaucoup pour ces réponses. Cinquième question. Est-ce que l'intervenant a démontré qu'il maîtrisait bien le sujet? Donc vous allez noter de 5 à 1, 5 étant excellente maîtrise du sujet et 1 mauvaise maîtrise du sujet. Allez-y, vous pouvez voter. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la sixième question. Êtes-vous satisfait de ce webinaire? Donc encore une fois, 5 extrêmement satisfaits et 1 pas satisfait du tout. Nous allons maintenant passer à la septième question. Quels sont les sujets que vous souhaiteriez que nous abordions pour les webinaires futurs? Donc, tapez votre réponse et n'hésitez pas à nous envoyer vos réponses par la suite également. Allez-y. Tijani au micro. Merci beaucoup, Yessim, pour ces questions. Et pour tous ceux qui nous écoutaient, essayez d'indiquer tous les sujets qui vous intéresseraient et que vous aimeriez voir couverts dans le cadre de nos webinaires. Et si vous n'avez pas le temps maintenant de les noter sur le chat, sur Adobe Connect, eh bien envoyez-les au personnel. Cela nous aidera à mieux définir les sujets pour nos webinaires. Merci beaucoup. Alors, j'ai un commentaire de conclusion pour Bart. Peut-être que les CCTLD ASCII, les gestionnaires de CCTLD ASCII, dans la plupart des cas, gèrent également des CCTLD IDN. Est-ce que c'est peut-être pour cela qu'il n'y a pas beaucoup de plaintes? Par rapport au fait qu'ils ne soient pas membres, qu'ils ne soient pas considérés comme membres. Mais bon, je pense que ce n'est pas normal, parce qu'il est tout à fait possible qu'il y ait un gestionnaire différent pour un CCTLD IDN. Donc c'est simplement une remarque. Bart au micro, est-ce que je peux répondre, Tijani? Effectivement, nous avons reconnu ce problème il y a déjà assez longtemps, et comme je le disais, c'est quelque chose qui est inclus dans la politique. Et il y a donc adoption par le conseil de l'administration qui doit être faite, mais il y a d'autres choses qui doivent être prises en compte avant, en termes de délégation des chaînes. Mais c'est quelque chose qui existe dans la politique, dans les recommandations pour les deux années à venir. Donc, c'est quelque chose qui a été noté, et je dois vous rassurer, dès que le conseil d'administration adopte la politique, les CCTLD IDN pourront devenir membres de la CCNSO. Tijani au micro. Merci beaucoup, merci Bart. J'aimerais vraiment vous remercier parce que Katrina n'a pas pu s'occuper de ce webinaire et la question qu'elle s'est posée, c'est qui en connaît davantage que moi sur la CCNSO et les CCTLD, et donc c'était donc vous qui avez été désigné. Je pense qu'elle a tout à fait raison. Donc, merci parce que cette présentation était excellente. J'aimerais maintenant également remercier les interprètes, en particulier parce que nous avons dépassé le temps imparti. Donc, merci à toutes les interprètes. Merci également au personnel et merci à tous les participants qui nous ont écoutés. Au revoir à tous et bonne journée. Le webinaire est terminé. Nous allons maintenant nous déconnecter. Au revoir.